Bonjour à tous. Donc nous allons ouvrir nos Bibles dans Romains au chapitre 6 et nous continuons donc une étude que nous avions commencée il y a assez longtemps déjà à partir du chapitre 4. Donc nous voilà maintenant au chapitre 6. Je vais lire pour vous les versets de 5-20, du chapitre 5 verset 20 jusqu'au verset 6. Pardon, jusqu'au verset 6 du chapitre 6. Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc nous allons donc entamer une étude, continuer notre étude, mais donc entamer le chapitre 6, et qui franchement n'est pas le plus simple de l'Épître aux Romains. Il y a beaucoup de vérités qui sont claires, mais il y a aussi c'est un passage qui est complexe. Donc vos prières sont les bienvenues pour m'aider à l'exposer dans la vérité. Je voudrais d'abord situer donc ce chapitre dans tout l'Épître aux Romains, dans le contexte de l'Épître aux Romains, et donc faire une revue aussi rapide que possible, mais quand même un tout petit peu détaillé de ce que nous avons dans l'Épître aux Romains depuis le début. Donc l'Épître aux Romains, c'est le livre du Nouveau Testament qui traite avec le plus de clarté et de la façon la plus systématique le sujet du salut. Et le déroulement donc du raisonnement de Paul dans ce livre est le suivant. Tout d'abord, au chapitre 1, il nous parle de la colère de Dieu qui se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et il parle en particulier des païens. Et il dit qu'ils sont sans excuse parce qu'ils ont eu la révélation. Ils ont eu suffisamment de révélations sur Dieu au travers de la création, mais ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Et au contraire, ils se sont inventés des faux dieux de leur imagination auxquels ils ont rendu un culte. Ensuite, au chapitre 2, Paul parle des Juifs. Et il dit que finalement, ils ne sont pas mieux que les païens. Certes, ils ont eu la loi, et même ils enseignent aux autres, mais eux qui enseignent la loi ne la mettent pas en pratique. Et Paul donc conclut cette partie sur les païens puis les juifs. Il a conclu au chapitre 3 avec ce constat terrible où il dit que tous, juifs et grecs, c'est-à-dire païens, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et est-ce que nous réalisons combien cette affirmation est contraire à la façon de penser normale des hommes, et même qui est certainement la nôtre à l'occasion? Les hommes pensent qu'il y a des personnes qui sont vraiment gentilles, des personnes qui sont vraiment méchantes, et puis beaucoup de gens qui sont un petit peu au milieu. En général, c'est là qu'on se met. Mais on ne met certainement pas tout le monde dans le même panier. Je me souviens que une des premières fois que j'ai lu ce verset de Romains 3, et je me suis dit, mais est-ce qu'il peut aussi inclure là-dedans Abraham, Moïse et David dans cette condamnation ? Et manifestement, oui. Tous les hommes, sans exception, sont sous l'empire du péché, même les plus gentils, même les plus nobles, même les plus courageux. Et en fait, les hommes sont incapables d'être trouvés justes sur la base de leurs œuvres, sur la base de leur pratique de la loi de Dieu. Tout ce que la loi peut faire, c'est ce qu'il nous dit au chapitre 3, tout ce que la loi peut faire, c'est leur montrer qu'ils sont pécheurs, afin que leur bouche soit fermée. Mais c'est sans la loi que la justice de Dieu est manifestée. Cette justice de Dieu est gratuite, Elle est pour tous ceux qui croient dans le sacrifice de Jésus sur la croix du calvaire. Il est la victime propitiatoire, c'est-à-dire la victime qui apaise la colère de Dieu et qui lui permet, donc qui permet à Dieu de nous déclarer justes, nous qui ne le sommes pas, tout en restant juste lui-même. Et en effet, il nous déclare juste sur la base d'une justice qui nous est imputée de l'extérieur, une justice qui est mise sur nous de l'extérieur, et c'est le thème du chapitre 4. Après la prédication que j'ai faite il y a 2 semaines, on m'a demandé ce que signifiait le mot « imputé ». J'aurais certainement dû l'expliquer, mais c'est un mot qui, en fait, était un mot du vocabulaire comptable et qui veut dire « inscrire au compte de ». Donc Dieu inscrit la justice à notre compte, comme un inscrit une écriture comptable. Et il le fait gratuitement, par grâce, uniquement sur la base de la foi. Et la justice qu'il nous donne, ce n'est pas la nôtre, mais c'est celle de Christ. Donc c'est une vraie justice, mais c'est celle de Christ. Ensuite, à partir du chapitre 5, Paul va étudier les conséquences de cette justice qui nous est donnée, de cette justification par la foi, et la grande conséquence qu'il cite en premier, c'est la paix avec Dieu, par Jésus-Christ. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et dans la première partie du chapitre, Paul veut rassurer ceux qui ont reçu cette justice à propos de la certitude qu'ils peuvent avoir de leur destinée éternelle. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, dit-il, serons-nous sauvés par lui de la colère. Et le fondement de cette assurance, c'est que le sang versé par Christ, nous le devons à l'amour de Dieu, que nous avons chanté tout à l'heure, donc à l'amour de Dieu, qui est la cause ultime de notre salut. Ensuite, dans la deuxième partie du chapitre 5, Paul est toujours en train de chercher à conforter cette assurance. Il nous explique comment l'acte d'un seul homme, Jésus-Christ, peut s'appliquer à tous les hommes, ce qui effectivement est assez surprenant finalement. Comment l'acte d'un seul homme peut s'appliquer à tous les hommes. Et son raisonnement est le suivant, il dit « L'imputation de la justice de Christ, elle fonctionne comme l'imputation du péché d'Adam à tous les hommes, dans ce qu'on appelle le péché originel. Un seul homme a péché, et tous les hommes payent le prix de son péché. Et son péché devient leur péché. Tous les hommes ont péché en Adam. Eh bien, c'est pareil. Un seul homme meurt sur la croix et tous ceux qui croient en lui sont sauvés par cet acte de justice qui devient le leur. On a vu que Adam et Christ agissaient comme deux représentants de la race humaine au travers desquels Dieu traite avec nous. Tous les hommes meurent en Adam, mais ceux qui choisissent Christ comme leur représentant, ressuscitent tous en Christ. Ce sont les expressions qu'ils ont utilisées, non pas dans Romains d'ailleurs, mais dans 1 Corinthiens 15 au verset 22. Mais dans ce passage de Romains aussi, donc la deuxième partie du chapitre 5, Paul note que la similitude entre Adam et Jésus, elle n'est pas parfaite parce que l'œuvre de Christ est beaucoup plus puissante que celle d'Adam. Elle est beaucoup plus puissante. Et en fait, donc c'est quelque chose qui décrit dans 3 versets, versets 15 à 17, et il le redit au verset 20, que nous connaissons bien, en disant cette phrase, « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Donc l'œuvre d'Adam, c'est le péché, l'œuvre de Christ, c'est une grâce qui surabonde. Donc on va maintenant regarder ce verset 20, qui commence ainsi donc en disant que la loi est intervenue pour que l'offense abonde. En fait, dans ce verset, Paul donne une réponse à la question de l'utilité de la loi. Finalement, si la loi n'est pas capable de nous justifier, à quoi sert-elle dans l'économie du salut? Il nous dit ici que la loi est intervenue pour que le péché abonde. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Une des façons de comprendre ce qu'il dit là est la suivante. La loi, c'est un révélateur du péché. La loi, c'est un révélateur du péché. Par exemple, en Romains 4, verset 15, Paul dit que là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Et en Romains 3, 20, il nous dit que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc tant qu'il n'y a pas de loi, l'homme ne connaît pas son état de pécheur. Mais quand il est confronté à la loi de Dieu, quand il est mis en présence de la loi de Dieu, alors il découvre son état de pécheur. Et alors il découvre aussi son besoin, qui est le besoin de grâce, qui est le besoin de grâce, parce qu'il s'est découvert pécheur. Et ainsi, la loi révèle son péché. Donc, dans ce sens, le péché abonde. Ce péché qu'il ignorait devient abondant. Mais quelle que soit l'étendue de ce péché, la grâce de Dieu, pour l'homme qui croit en celui qui justifie l'impie, surabonde. La grâce de Dieu pour l'homme qui croit en celui qui justifie l'impie, surabonde. La grâce de Dieu, elle est beaucoup plus forte que le péché. Et elle est toujours gagnante. On va regarder maintenant le verset 6, 1, donc le chapitre 6, le verset 1. La déclaration de Paul au verset 20, donc du chapitre 5, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, cette affirmation suscite tout de suite une question. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Est-ce que c'est une question qui a été réellement posée à Paul ? Ou bien est-ce que Paul est en train de traiter cette question au cas où le lecteur se la poserait ? On ne sait pas. Mais c'est vrai qu'après tous ces chapitres, le chapitre 4, le chapitre 5, enfin la fin du chapitre 3, le 4 et le 5, on se dit « mais c'est fabuleux ». C'est fabuleux, on est sauvé. On est parfaitement sauvé. Alors on peut pécher tant qu'on veut. Et c'est sans conséquence. Et même plus on pêche, plus il y aura de la grâce. Mais la réponse, cette conclusion est complètement erronée. Elle est même choquante et Paul réagit avec la plus grande fermeté à cette remarque et dit loin de là. En gros, il veut dire, mais comment pouvez-vous imaginer une chose pareille ? Comment pouvez-vous imaginer une chose pareille ? C'est ça qu'il est en train de dire, une expression très forte. Et en fait, l'ensemble du chapitre 6, il va dédier un chapitre entier à traiter de cette question de la relation entre le péché et le chrétien, qui est soulevée donc par cette question choquante. Et ce chapitre 6, c'est en quelque sorte une parenthèse dans l'exposé de Paul qui est commencé au chapitre 5. Et dans cette parenthèse, donc, il traite de cette relation entre le péché et le chrétien et de l'impossibilité de cette relation. Ensuite, si on avance au chapitre 7, on ne va pas évidemment le faire aujourd'hui, mais c'est important aussi de noter que si ensuite on voit au chapitre 7, on voit que là, il ne traite pas de la relation entre le chrétien et le péché, mais de la relation entre le chrétien et la loi. Et en fait, il développe le thème qu'il a inauguré en 5.20, puisqu'en 5.20, il a parlé de la loi. Chapitre 5, verset 20. Et si on poursuit au chapitre 8, c'est pas la peine que vous tourniez vos bibles parce que vous connaissez ce verset par cœur, il commence en nous disant « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Et donc cette affirmation, remarque, elle est très proche du chapitre 5, verset 1, où il dit « Étant donc justifié par la foi, vous avez la paix avec Dieu par Jésus-Christ ». En fait, manifestement au chapitre 8, il revient au thème du chapitre 5. Il a donc fait, dans les chapitres 6 et 7, une grande parenthèse dans son discours. Une grande parenthèse dans son discours, où il a traité du péché et du chrétien au chapitre 6, et de la loi et du chrétien au chapitre 7. Donc maintenant, on va revenir au chapitre 6, et puis on va, comme on va l'étudier dans les mois qui viendront, on va regarder un petit peu son plan. Donc on a déjà vu les versets 1 et 2, ils sont l'introduction du chapitre sous une forme de question. Puis ensuite, il y a les versets 3 à 10, qui sont une réponse, je dirais, doctrinale à cette question. Il donne une réponse doctrinale. Et à partir du verset 11 seulement, c'est là qu'il va devenir plus pratique. Et donc, à partir du verset 11, le chapitre devient pratique. Hein ? Par opposition donc, au verset 3 à 10, où il est, on pourrait dire en quelque sorte, théorique. Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde ? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché. Le prédicateur David Martin Lloyd-Jones a fait la réflexion suivante que je trouve très intéressante. Il a dit le fait que ce genre de réaction, complètement erronée, soit toutefois provoquée par la prédication de la grâce, c'est une preuve certaine que vous avez prêché la grâce. Parce qu'il dit si vous prêchez le salut par les œuvres, les gens ne réagiront pas comme ça. Mais si vous avez vraiment prêché la grâce, il y a nécessairement des gens qui vont réagir comme ça. Et évidemment, Paul est là pour corriger leur erreur. La grâce de Dieu est entièrement gratuite. Elle est absolument indépendante de nos œuvres. Elle est destinée à des impies. Et donc, ce n'est pas surprenant, finalement, que des personnes se disent « c'est pas grave si je pêche ». Et quand on partage ce verset, notamment ce verset où Paul parle de la foi qui justifie les impies, avec des gens qui ne l'ont pas lu. Ils sont même choqués du verset de la Bible. Et j'ai rencontré des gens qui sont prêts à rejeter ce verset, en trouvant choquant que Paul puisse dire que Dieu justifie les impies sur la base de leur foi seule. Et le danger d'une telle réaction, donc d'une réaction où on dirait, ben finalement, puisque la grâce surabonde, alors je peux pécher tant que je veux, ce danger, il existe encore de nos jours. Il existait du temps de Paul, il existe encore de nos jours. Il y a une vingtaine d'années, il y a une controverse qui a vu le jour dans les milieux évangéliques américains. Il y a certains théologiens évangéliques américains, qui étaient pourtant très conservateurs, qui avançaient qu'une fois qu'une personne a été sauvée par la foi, il n'est pas nécessaire que son salut se traduise par des œuvres. Ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir une personne qui est sauvée par la foi, il y aura certainement des œuvres, mais ce n'est pas nécessaire qu'il y ait des œuvres. Et s'il n'y a pas d'œuvres, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas la foi. Et certains... Donc le point de vue opposé à ça a été défendu par John MacArthur. Et certains d'entre vous le connaissent, ils ont peut-être lu des livres de lui, ou vous avez peut-être une Bible, j'en vois une là-bas, une Bible commentée par MacArthur. Et MacArthur donc, a exposé un contre-argumentaire à cette position, donc dans un ouvrage qui est appelé « L'Évangile selon Jésus », je ne sais pas si on ne l'a pas à la bibliothèque, en tout cas il est à la maison de la Bible. C'est un très bon ouvrage, où il défend le point de vue qu'une foi authentique inclut une soumission à la seigneurie de Jésus qui nécessairement se traduira par une obéissance à ses commandements. Et donc, vous voyez que là, on est vraiment dans la question de Paul et le fait que Paul soit choqué en disant « Mais comment pourriez-vous imaginer une chose pareille? Comment, nous qui sommes morts au péché, vivrions-nous encore dans le péché ?» Je dirais que cette controverse, elle ne nous est pas complètement étrangère non plus. Et il n'est pas rare, je dirais aujourd'hui, hein, ça vous est peut-être déjà arrivé, d'être accusé de légalisme quand on insiste sur la nécessité pour le chrétien de lutter contre le péché dans sa vie. Donc Paul est donc horrifié et choqué par cette suggestion qu'un chrétien demeure dans le péché. Cette expression traduite loin de là est très forte et considère que le fait qu'un chrétien demeure dans le péché est tout simplement impossible, car, dit-il, il est mort au péché. Il est mort au péché. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il est mort au péché. Nous qui sommes morts au péché. D'abord, c'est important de noter le temps qui est utilisé par Paul, qui se trouve pas nécessairement bien dans ce texte, en tout cas traduit en français. Mais une meilleure traduction en français serait d'utiliser le passé simple, qui dans notre langue indique un acte qui s'est produit dans le passé à un moment précis. Et donc ça donnerait « nous qui mourûmes au péché ». C'est un test de conjugaison, je dirais, pour les plus jeunes. Je suis sûr qu'Albert, il se rappelle, mais... vous qui mourûtes, donc nous qui mourûmes au péché. On ne parle plus comme ça aujourd'hui, mais c'est bien l'idée qu'à un moment précis dans le passé, c'est le temps du passé simple, nous avons subi la mort. Il y a deux questions à se poser donc, sur cette mort. Donc, quelle est sa nature et quand s'est-elle produite? Donc, on va rechercher les réponses dans la suite du texte. Donc, versets 3 et 4. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Tout d'abord, une petite remarque préliminaire, il ne faut pas se laisser perturber par le mot « baptême ». Le mot « baptême » prend évidemment dans notre langue un sens bien particulier. Et quand on pense baptême, on pense immédiatement baptême par immersion ou baptême par aspersion dans d'autres églises. Mais en fait, le mot baptême, c'est une translittération en français du grec. Et donc une translittération, ce n'est pas une traduction, c'est prendre le mot grec et le prononcer, je dirais, à la française. Donc le mot grec, c'est le mot baptizo. Et si on le prononce à la française, ça donne baptisé. Mais en réalité, ce mot baptizo veut dire immerger, plonger. Donc, Paul nous dit au verset 3, il nous dit que nous avons été immergés en Jésus-Christ et immergés dans sa mort, plongés dans sa mort. Et donc, dans cette action d'être immergé dans la mort de Christ, on devient identifié à cette mort, identifié à Christ en tout point. On est mort avec lui et on est enseveli avec lui. Donc, l'ensevelissement, c'est la preuve finale de la mort. Donc, il ne dit pas seulement qu'on est mort, mais il dit aussi qu'on est enseveli avec lui. Et puis, un petit peu plus loin, il dit que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Vous voyez, il est vraiment une association très forte entre la mort de Christ et notre mort. Alors, quelle mort Christ a-t-il subi ? Christ a subi la mort à cause du péché. Et la mort que nous subissons, c'est la même. On est crucifié avec Christ, donc c'est une mort qui est pénale. La mort que Jésus a subie sur la croix, c'est une mort pénale pour payer le prix des péchés. Et nous subissons la même mort. Notre vieil homme est crucifié avec Christ. C'est ce qu'il dit au verset 6. Notre vieil homme est crucifié avec Christ. Donc on subit une mort pénale. Christ est condamné à la croix. Notre vieil homme est condamné à la croix. Il subit le châtiment en Christ pour ses péchés. La peine de ses péchés est payée. Donc la mort qu'on subit avec Christ, c'est une mort pour nos péchés. Mais l'identification avec Christ ne s'arrête pas là. On le voit ensuite. Christ est ressuscité des morts. Et nous aussi, nous ressuscitons des morts. Le passage dit que nous marchons en nouveauté de vie. Donc l'événement de notre mort au péché, il est immédiatement suivi de notre résurrection. Et cette résurrection, c'est notre nouvelle naissance, la nouveauté de vie. Donc on a donc, si on résume sur la nature de cette mort, on a donc un vieil homme qui est crucifié avec Christ. Et ainsi, ses péchés ont été jugés. Et puis on a un homme nouveau qui est ressuscité avec Christ. Maintenant, on va regarder le moment de cette mort. Donc on a vu que cette mort s'est produite dans le passé, c'est un fait accompli, révolu. Mais on doit maintenant répondre à cette question, quand est-ce que ça s'est passé ? Quand est-ce que ça s'est produit pour nous ? Pour Jésus, on le sait, mais pour nous. Donc l'interprétation classique de ce passage, c'est qu'il parle du moment de notre conversion. Que ce passage parle du moment de notre conversion. Le passage ne le dit pas explicitement, mais c'est ce qu'on peut comprendre en le connectant avec d'autres passages. On va regarder par exemple Éphésiens 2, si vous voulez bien ouvrir vos Bibles dans Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens au chapitre 2. Qui commence ainsi, qui dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, et on voit donc qu'il nous a rendus à la vie avec Christ, et il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Donc il nous a rendu à la vie avec Christ et nous a ressuscité ensemble avec Christ. Donc on retrouve ici le concept de la résurrection, exactement ce qu'on a vu dans Romains chapitre 6. Dans Romains chapitre 6, on a vu qu'on marche en nouveauté de vie. Et ici, on voit que Dieu nous rend à la vie avec Christ. On retrouve donc le concept de la résurrection qui intervient avec Christ, qui intervient brutalement dans la vie d'homme entièrement pécheur et perdu. Cette résurrection, elle est l'œuvre directe et gracieuse de Dieu. Et donc ce passage aussi, ce passage d'Éphésiens, qu'est-ce qu'il décrit ? Il décrit le salut par la foi. Comment on le sait ? On le sait parce que c'est explicité au verset 8, qui nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc ici, on voit qu'on a une connexion très forte entre le salut par la foi et cette résurrection en Christ dont il nous est parlé. Et donc c'est bien ce qu'on a vu. On a vu au Romains chapitre 6 qu'on parle de notre mort avec Christ et de notre résurrection avec Christ. Donc là, je dirais qu'on a un premier indice qui nous indique que cette résurrection avec Christ, elle se produit au moment de notre conversion. Il y a un autre grand passage qui fait le lien entre la foi et encore une fois, entre la foi et la nouvelle naissance. Ce grand passage, c'est Jean 1,12, et on peut l'ouvrir, on peut regarder Jean 1,12 si vous souhaitez. Jean 1, verset 12, mais vous connaissez certainement presque par cœur ce verset. Et Jean 1,12 donc qui parle, Jean 1,12 qui parle de ceux qui reçoivent donc la parole et de ceux qui croient en son nom. Donc il nous dit, mais à tous ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, on a encore une fois ici un lien entre, maintenant, donc un lien entre la foi, ceux qui croient en son nom, et la nouvelle naissance. Ils sont nés de Dieu. Et Romains chapitre 6 nous parle de la nouveauté de vie. Et également au verset 5, il parle de la conformité avec la résurrection de Christ. Donc la nature de cette mort, c'est une mort pénale, une exécution capitale à cause de nos péchés, que Christ a réellement subi pour nous, et que nous, ou plutôt que notre vieil homme subit avec lui. Et cette mort, nous la subissons au moment de notre conversion. Alors, je voudrais faire une petite digression sur le baptême par immersion, parce que quelqu'un pourrait se poser cette question et dire, mais est-ce que l'événement qui provoque cette mort et cette résurrection avec Christ, est-ce que ce ne serait pas tout simplement le baptême par immersion? Pourquoi se compliquer la vie à imaginer que c'est autre chose, alors qu'il y a le baptême par immersion? Et c'est versé par le bien d'un baptême. Et d'ailleurs, c'est la position de l'Église catholique aujourd'hui encore, c'était la position de gens comme saint Augustin. Hein? Donc c'est une vraie question. Mais on sait par exemple que le centurion Corneille a cru et qu'il a reçu l'Esprit Saint avant le baptême par immersion. Et qu'à cause du fait qu'il avait reçu l'Esprit Saint, alors Pierre a dit, ben maintenant, qui peut lui refuser les eaux du baptême? Et de même, l'eunuque éthiopien a cru avant d'être baptisé. C'est d'ailleurs à cause de ça que Philippe a accepté de le baptiser. Nous ne croyons donc pas, dans notre assemblée, dans les assemblées protestantes évangéliques en général, nous ne croyons pas que le baptême par immersion provoque cette mort et cette résurrection. Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater que Paul, qui pourtant nous parle ici du baptême avec emphase, il n'attache pas une importance énorme au baptême par immersion. Puisque dans 1 Corinthiens 1:17, si vous voulez, on peut regarder 1 Corinthiens 1:17, c'est un contexte en fait où il parle clairement du baptême par immersion. Il parle très clairement du baptême par immersion. Et pour montrer aux Corinthiens qu'il ne faut pas qu'ils s'attachent à des personnes dans l'Église, il leur dit d'ailleurs, moi je n'ai pas baptisé grand monde. Hein, il cite quelques personnes, il dit, voilà, j'ai baptisé peut-être, oui, la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne, comme si d'ailleurs il avait oublié. Et il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Donc manifestement, Paul, dans le passage de Romains 6, donner au baptême par immersion cette vertu, finalement, de régénération qui est décrite, alors il ne dirait pas « j'ai pas été envoyé pour baptiser hein ». Au contraire. En revanche, le baptême par immersion que nous pratiquons ici est une parfaite image du baptême qui est mentionné en Romains chapitre 6, parce que lors de notre baptême par immersion, la personne est plongée dans l'eau. Ça, c'est une image de l'ensevelissement. Et puis, elle est ressortie de l'eau. Et c'est donc une image de la résurrection. Hein, donc, il y en a bien un lien entre le baptême par immersion et le baptême de Romains chapitre 6. Alors, il y a d'autres passages dans le Nouveau Testament où on parle du baptême. Et en particulier, il y a un passage qui est très important, qui est en 1 Corinthiens 12-13. Et je voudrais que, puisque nous sommes déjà dans 1 Corinthiens, qu'on aille regarder ce passage dans 1 Corinthiens 12-13. Corinthiens 12-13, nous lisons ceci. Nous avons tous, en effet, été baptisés en un seul esprit pour former un seul corps. Hein, donc 1 Corinthiens 12-13, là je lis dans la version Louis II. Nous avons tous été baptisés en un seul esprit pour former un seul corps. Le corps dont il est parlé dans le chapitre 12, de 1 Corinthiens, c'est sans aucun doute le corps de Christ, puisqu'il est dit au verset 27, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. » Donc c'est le contexte fait de l'Église, donc, dont les membres, c'est-à-dire nous, formons le corps de Christ, qui est l'Église. J'aime bien la traduction anglaise. King James dit « Nous avons été baptisés par un seul esprit, dans un seul corps. » Donc là, c'est encore plus imagé, on est baptisé par l'Esprit dans un seul corps. Donc en fait, l'Esprit nous plonge dans le corps de Christ. Il nous immerge dans le corps de Christ. Il nous place dans l'Église qui est le corps de Christ. Et donc souvent, on appelle ça le baptême de l'Esprit. Et si vous revenez à Romains chapitre 6, au verset 3, vous voyez bien qu'il est dit « Nous avons été baptisés en Jésus-Christ ». Et une autre doctrine importante, très importante, qui est révélée dans ce passage, c'est celle de l'union avec Christ. C'est celle de l'union avec Christ. Bon, à juste titre, nous voyons le salut comme nos péchés imputés sur Christ. C'est ce qu'on appelle donc la justification, nos péchés qui sont imputés sur Christ. Et sa justice qui nous est imputée. C'est un acte dans lequel on ne participe pas, en fait, ou très peu, c'est un acte de la grâce. Et c'est la vision d'une transaction légale et qui est extérieure à nous. On insiste bien d'ailleurs que c'est une justice externe à la nôtre. Donc c'est quelque chose qui est externe. C'est ce qu'on appelle la justification. Mais le salut ne se limite pas à la justification. Il a des conséquences dont nous parle ce passage. Donc au chapitre 5, on lit « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, verset 5, pardon, pas chapitre 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par sa conformité à sa résurrection. » Nous sommes devenus une même plante. Il y a bien évidemment ici l'image de la greffe d'une branche sur un autre arbre. Et une fois que la greffe est faite, la branche vit de la vie du nouvel arbre. Et ce qui arrive au nouvel arbre, lui arrive aussi. Et c'est évidemment un passage qui est très cousin avec celui-là, c'est Jean chapitre 15. Jean chapitre 15 et au verset 5, il nous dit ceci, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc il y a une union organique entre les branches, c'est-à-dire ce qu'on appelle en langage technique viticole les sarments, et puis le pied de la vigne, qu'on appelle le cep, donc c'est la racine de la vigne. Et donc le cep, il donne aux branches la vie par la sève. Et donc les branches qui sont ainsi nourries par la sève, elles portent des fruits. Et il est impossible au sarment de subsister s'il n'est pas bien connecté au cep. Donc il y a vraiment une union obligatoire entre le cep et le sarment. Il y a un autre verset, et je vais vous demander d'y tourner, parce que je suis désolé de vous faire tourner les pages, mais ce verset-là, il faut bien l'avoir sous les yeux, en Galates 2, au verset 20. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20 nous dit ceci. « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc on a exactement le même point de départ que Romains chapitre 6. Nous avons été crucifiés avec Christ. Notre vieil homme a été crucifié avec Christ. On a vu au chapitre 6, au verset 4. Et Romains 6 nous dit que... Donc oui, c'est ce qu'il nous dit. Donc. Mais nous n'en restons pas là. Nous vivons et nous sommes ressuscités. Et nous vivons une vie nouvelle qui est étroitement associée à celle de Christ. Donc nous sommes unis à lui. Donc Galates 2:20, on voit qu'il y a la crucifixion avec Christ. Et puis ensuite, la vie qu'on vit, c'est une vie avec Christ. C'est même plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous. J'ai fait une recherche sur cette expression en Christ dans le Nouveau Testament. Vous tapez dans Google ou dans Bible Gateway, vous tapez en Christ. Et on la retrouve en abondance chez Paul. C'est vraiment spectaculaire. Et je vais citer un échantillon. Je ne vous indique pas les références, mais faites-moi confiance. Chaque fois, ce sont des passages de la Bible. Et je vais les lire j'essaie de les classer un peu en ordre et vous allez voir. Donc, c'est des expressions qui contiennent « en Christ ». Nous sommes engendrés en Christ. Nous sommes baptisés en Christ. Nous sommes pardonnés en Christ. La grâce nous est accordée en Christ. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous sommes ressuscités en Christ. Nous espérons en Christ. Nous sommes vivants pour Dieu en Christ. Nous sommes éprouvés en Christ. Notre cœur est tranquillisé en Christ. Nos cœurs et nos pensées sont gardés en Christ. Nous sommes affermis en Christ, nous triomphons en Christ, nous sommes bénis en Christ. Nous aimons en Christ, nous avons des compagnons d'œuvre en Christ, nous avons des frères en Christ, nous formons un seul corps en Christ. Nous disons la vérité en Christ, nous vivons pieusement en Christ, nous devenons parfaits en Christ, nous nous glorifions en Christ et nous mourons en Christ au sens non pas de la mort qui est ici, mais la fin de notre vie, la fin de notre vie terrestre. Et ce n'est qu'un échantillon, il y a des dizaines d'autres. Mais vous voyez que cette doctrine de « en Christ », cette union avec Christ, c'est un leitmotiv, comme on dit, de Paul en particulier. Il y a d'autres expressions, on peut regarder, où il y a « dans le Seigneur », par exemple, on dit quand on se marie, on doit se marier dans le Seigneur, ça veut dire la même chose, ou Christ aussi utilise « en moi », beaucoup dans l'évangile de Jean. Donc toute notre vie chrétienne se passe en Christ, dans cette union avec lui. Donc c'est ce qu'on a vu, on a vu au chapitre 6, une même plante. Voilà, on est unis maintenant, inséparablement à lui, comme le sarment avec le cep. Et sa vie, c'est notre vie. Sa vie, c'est notre vie. Je vais rester là et passer à quelques applications et quelques conclusions. Alors, je vais faire une première remarque. J'ai dit tout à l'heure que c'est un chapitre qui est difficile. Et c'est vrai que les commentateurs disent que c'est un chapitre qui est difficile. Mais pourtant, ce n'est pas l'opinion de Paul. Parce que Paul, il ne nous présente pas comme une vérité complexe qui est réservée aux théologiens. Au contraire, il est même choqué que les lecteurs puissent poser cette question qu'on a vue tout à l'heure. Et il commence au verset 3 en disant « Ignorez-vous que ?» Ignorez-vous que ? C'est-à-dire qu'il est en train de leur dire « Mais vous ne connaissez même pas les bases. » Il le dit presque comme sous forme de remontrance, comme si c'était une évidence ou un rappel. Donc c'est important de se dire que peut-être que ce chapitre nous paraît, en tout cas moi il me paraît un peu compliqué, mais finalement, ce sont des vérités de base. Ce n'est pas des vérités réservées aux théologiens. Il faut vraiment qu'on les absorbe et qu'on les médite. Parce qu'on n'est pas en train de parler de choses... On est encore au même, peut-être au lait. C'est peut-être pas encore de la viande. C'est peut-être simplement du lait. Deuxièmement, c'est très important de voir que dans ce texte, il n'y a pas d'exhortation. Dans le texte qu'on étudie aujourd'hui, il n'y a pas d'exhortation. La première exhortation ne vient pas avant le verset 11. Pendant ces 10 versets, Paul fait un exposé qui est purement doctrinal. C'est un exposé purement doctrinal. C'est très important parce que Paul ne nous dit pas, il n'est pas en train de nous dire « mourez en Christ ». Il nous rappelle que c'est déjà fait. Et ce qu'il nous décrit, ce n'est pas quelque chose que nous avons fait, mais c'est quelque chose qu'on nous a fait. Nous avons été baptisés, nous avons été ensevelis, nous avons été crucifiés. En Éphésiens 2, qui est très proche de ce passage, Paul nous dit que Dieu nous a rendus à la vie avec Christ et qu'il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Donc en fait, ce qu'on voit ici, on a vu aussi, oui, j'oublie, on a vu en 1 Corinthiens 12, 13, que nous avons été baptisés par l'Esprit dans un seul corps qui est Christ. Donc ce qu'on voit ici, ce sont différents aspects du salut. Et notre salut, il est entièrement l'œuvre de Dieu et pas la nôtre. Et en lisant ce passage, il ne faut pas qu'on se dise « il faut que je meure en Christ ». Ce n'est pas ce qu'il est en train de nous dire. Il y a d'autres passages où il nous dit qu'il faut qu'on mette à mort nos péchés, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais ici, il n'est pas en train de nous dire « faut que vous mouriez en Christ ». Il y a beaucoup de gens qui enseignent ça. Manifestement, ce n'est pas ce qu'il dit. Ce qu'il dit, il dit « vous êtes mort en Christ ». C'est quelque chose qui est fait. Et on verra que ce qu'il nous demande, ce n'est pas de mourir en Christ, c'est de comprendre que nous sommes morts en Christ. Et c'est ça le thème d'une partie du chapitre 6. Troisièmement, on voit ici que notre salut, c'est une transformation brutale et pas un lent processus. Le vieil homme est crucifié, un homme nouveau est né. Alors Paul ne nous dit pas en combien de temps ça se passe dans ce passage. Mais manifestement, on est sur quelque chose de brutal, de soudain, qui prend peu de temps. La conversion, c'est quelque chose qui prend peu de temps. Et c'est une vérité qu'on doit proclamer. Le salut, c'est quelque chose qui se produit soudainement dans nos vies. On regarde Paul, par exemple. Paul, c'est une conversion soudaine et brutale. Alors, il va se passer environ 3 jours entre le moment où il y a eu l'apparition du Seigneur et puis le moment où il est baptisé, où les peaux lui tombent des yeux, mais c'est très rapide. Le geôlier de Philippe, c'est pareil. C'est un événement de crise où il est prêt à se tuer. Paul vient, il lui présente le salut et quelques heures après, il est baptisé. On ne devient pas progressivement chrétien. On le devient soudainement. Certes, une fois qu'on est sauvé, une fois que ce chrétien est sauvé, le chrétien grandit progressivement dans la sanctification, dans la sainteté, mais il est sauvé en un instant. Et c'est important d'enseigner cette doctrine quand on évangélise, parce qu'on vit dans un pays où il n'y a pas si longtemps, tout le monde était plus ou moins chrétien, mais personne, ou pas grand monde, l'était vraiment. Et je pense que c'est le cas, pas seulement chez nous, mais dans beaucoup de pays, qu'ils soient d'horizon catholique ou protestant. Hein, c'est que on n'enseigne plus que le salut, c'est quelque chose qui change profondément la vie, qui intervient dans l'existence. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est une mort, en fait. C'est un événement brutal. Il y a une mort et une résurrection. C'est une transformation complète de la personne qui passe d'un vieil homme qui disparaît et il y a un homme nouveau. Quatrièmement, peut-être qu'en lisant le texte de Paul, où il nous dit « Comment vivriez-vous encore dans le péché ?» On se dit « Mais Paul met la barre très haut parce qu'on sait tous que nous péchons encore, il y a encore du péché dans notre vie. » Puis il nous dit que nous sommes morts au péché, mais le péché, il est bien vivant. En fait, on ne se sent pas mort au péché. On ne se sent pas mort au péché. Sur le niveau des sentiments, de la sensation, on ne se sent pas mort au péché. J'ai entendu à plusieurs reprises une très belle image qui peut nous permettre de mieux comprendre ce passage. À la fin de la guerre de sécession, aux États-Unis, en 1865, l'esclavage a été aboli. Et du jour au lendemain, donc, les esclaves n'étaient plus des esclaves. Ils étaient légalement des hommes libres. Mais est-ce qu'ils ont ressenti ce changement? Non, parce que c'était une décision légale. L'autre jour, Steve m'a dit qu'il était devenu français et qu'il m'a montré sa carte d'identité. Est-ce qu'il a ressenti quelque chose? Je ne suis pas sûr, c'était une décision légale. Mais revenons à nos esclaves. Beaucoup d'entre eux avaient vécu longtemps dans l'esclavage et ne savaient pas que faire avec cette nouvelle liberté. Et leur tendance naturelle était de faire ce qu'ils avaient toujours fait, de rester sous le joug de leur ancien maître. Mais leur ancien maître n'avait pourtant plus aucun pouvoir sur eux. Peut-être qu'ils le craignaient encore, mais ils ne pouvaient plus rien leur faire, ils ne pouvaient plus leur donner des ordres, ils ne pouvaient plus les punir, ils ne pouvaient plus les vendre. Et c'est pareil pour nous. Dans les 15 premiers versets de ce chapitre, Paul nous rappelle une vérité. Vous êtes morts au péché. De ce fait, le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Mais c'est une chose dont on doit prendre conscience. C'est ça l'enseignement de ces premiers versets, c'est que on doit non pas mourir au péché, c'est déjà fait, mais on doit comprendre, on doit prendre conscience d'une réalité qui est déjà établie. C'est ça, pour moi, le cœur de ces 15, 14 premiers versets. Et enfin, cinquièmement et dernièrement, cet événement du salut dont j'ai parlé, il n'est pas seulement pour objectif de nous sauver de l'enfer, évidemment qu'il nous sauve de l'enfer, mais cet événement, il nous plonge, il nous immerge en Christ et on devient uni avec lui pour toujours. Et c'est le but ultime du salut. Le but ultime du salut, ce n'est pas seulement nous sauver de l'enfer. Gloire à Dieu qu'on soit sauvé de l'enfer. Mais le but ultime du salut, c'est qu'on soit uni à Christ pour l'éternité. Rappelons-nous que Jésus s'est racheté un peuple. Il s'est fiancé à une épouse. L'Église est son corps. Et le salut, c'est une nouvelle naissance. Et une naissance, c'est le début d'une nouvelle vie éternelle en Jésus-Christ. Je n'ai pas commenté le verset 21, mais je voudrais juste le lire dans le chapitre 5. Afin que comme le péché régnait par la mort, ça c'était notre ancienne vie, ainsi la grâce régna par la justice, ça c'est la justice de Christ, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez, il y a un ancien règne qui est terminé, c'était le règne du péché, puis maintenant c'est le règne de la justice et de la grâce pour la vie éternelle par Jésus-Christ. Amen. Prions. Père Céleste, pendant toute cette étude du chapitre 6, veuille nous guider et nous éclairer. Veuille ouvrir nos cœurs. Oui, Seigneur, veuille fortifier nos intelligences, nous éclairer par ta lumière pour que nous comprenions ces vérités. Et que comprenant ces vérités, Seigneur, nous vivions en conséquence. Que vraiment, ce qui est dans ces versets nous touche et nous transforme. Et que ces versets, que cette étude, Seigneur, que ces études aient un impact sur nous. Que nous les regardions, que nous regardions tout cela très sérieusement, que nous méditions sur ces choses, que nous comprenions, Seigneur, ce qui s'est passé lorsque tu nous as convertis et que nous vivions selon le plan que tu as prévu, étant déjà mort au péché. Je te prie, Seigneur, au Saint-Nom de Jésus. Amen.